Attention, la chronique que vous allez écouter est un peu technique, donc il faut s'accrocher et être attentif, sinon vous n'allez rien comprendre. Mais moi je viens de la réécouter, là j'ai un peu décroché, mais bon j'étais sur mon téléphone en même temps, donc ça n'a pas dû aider.
Tapalipou, jingle.
J'ai trop envie de parler de compétition entre femmes pour obtenir les grâces d'un homme médiocre et d'industrialisation en même temps. Alors commençons en douceur avec l'histoire de ces deux femmes de mon entourage, dont l'une pourrait défiler pour Dior et l'autre non, puisque Anna Wintour lui aurait dit « Bah non, t'es trop grosse, et la société elle est grossophobe, donc allez, ciao !» Et évidemment, ces deux femmes s'intéressent au même homme. Sans surprise, cet homme a choisi celle qui correspondait aux critères de beauté standard. Et là, moi, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais c'est donc ça le privilège beauté !» Alors il faut savoir que cette belle femme est aussi une femme noire et on ne peut pas négliger ça puisqu'elle se fait très régulièrement exotiser. Waouh, t'es vraiment une lionne, qu'on lui dit. Rendue à l'état d'animal, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle possède un privilège beauté? Sans surprise, l'amitié de ces deux femmes s'est terminée quand le couple maudit s'est formé. Et sans surprise, cet homme s'est comporté avec cette femme comme un garçon non éduqué au féminisme. Cet événement, mais aussi une expérience de travail où j'étais exclusivement entourée de femmes, également l'apparition de mes premiers cheveux blancs, m'ont fait remettre en question cette histoire de privilège beauté. Non seulement la beauté est très subjective, par exemple si vous me mettez dans un pays qui n'a pas souscrit au plan Marshall, eh bien je ne bénéficierai d'aucun privilège beauté. Et ensuite, en quoi est-ce un privilège que d'être celle qui est choisie par des hommes qui font de moi un objet? Finalement, cette histoire de privilège beauté, ça serait pas encore une énième facette de l'ancestrale compétition entre femmes. Quand deux entreprises vendent le même produit, ils doivent se démarquer pour être choisis par le consommateur. Sur le marché de la séduction hétérosexuelle, par exemple, une femme se démarquera d'une autre par sa beauté, son caractère, ou alors son degré de féminisme. Moins elle est féministe, plus elle a de chances d'être choisie par le plus grand nombre de consommateurs masculins. Alors je fais un parallèle un peu dégueulasse entre les femmes et les entreprises et les produits et les objets, mais c'est pour mieux en arriver à mon sujet, qui est l'origine industrielle du mot compétitivité et l'arnaque que cette fable représente dans l'administration des pouvoirs publics. Donc allons-y, rentrons dans le dur maintenant et laissons les femmes tranquilles, elles s'en prennent bien déjà assez comme ça dans la gueule. Mesdames, je vous aime, alors pas toutes bien sûr, mais dans l'idée, vous m'avez compris, je vous soutiens. Les vertus de la compétitivité sont très régulièrement vantées au niveau économique et politique. Et à chaque trimestre, on nous sert la même soupe de merde. À savoir, la compétition réduit les inégalités sociales et favorise la croissance et l'innovation. C'est pourquoi nos entreprises doivent être compétitives. C'est faux. Si vous croyez encore à cela, alors vous êtes aussi capable de croire que la Terre est plate. La concurrence crée systématiquement du monopole et le monopole Flash News monopolise. Ça se vérifie depuis 50 ans. Et vous voyez bien qu'il n'y a apparemment qu'une seule place sur les podiums du monde, comme il n'y a apparemment qu'une seule Miss Univers. Miss Univers, mais quelle idée, mais pour qui vous vous prenez en fait? Bref, le mot compétitif apparaît au 19e siècle, c'est-à-dire au début de l'apocalypse industrielle, issu du mot concurrence qui lui apparaît au 16e et voulait dire accourir ensemble, c'est-à-dire venir en courant. Venir en courant devant le consommateur pour qu'il choisisse votre produit à vous. Par exemple, en le vendant moins cher que celui de votre concurrent. Alors, on va essayer de trouver tout un tas de stratégies pour baisser les coûts de production. Jusqu'à là, on pouvait s'en sortir en mettant par exemple des copeaux de bois dans les yaourts à la fraise ou alors en mettant de la merde dans les boulettes de viande. On se souviendra de Ikea qui avait eu cette super bonne idée. C'était une erreur qu'ils disent, mais oui, bien sûr, une erreur. Bon, ben on vous pardonne, c'est pas grave de nous faire bouffer de la merde. Mais bon, cette stratégie de baisser les coûts de production en baissant la qualité des matières premières, ça a ses limites. Il faut se renouveler, il faut innover pour être compétitif. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en France très récemment, par exemple, en baissant le coût du travail pour baisser les coûts de production. C'est-à-dire en décidant d'appauvrir les gens, tout simplement. Appauvrir les gens voulant dire les faire travailler plus tôt, ce qui veut dire fini les longues études où on aurait le temps de découvrir des idées anticapitalistes, et les faire travailler plus longtemps, ce qui veut dire que le destin des gens, c'est le travail qui rémunère mal. et le travail qui rémunère mal, c'est la santé des investisseurs. Ces investisseurs, adversaires entre eux, sont généralement des industriels et des banques étrangères qu'on doit attirer en France en faisant du racolage, c'est-à-dire en baissant le coût du travail. Et comme ça, les gentils capitalistes, eh ben, ils vont pas aller niquer la Chine ou la Roumanie. Vous voyez, ils vont revenir en France. Donc, on s'inspire des conditions de travail de ces pays en foutant en l'air la joie de vivre des producteurs. Et les producteurs, c'est vous. N'oubliez jamais ça. Et on est en train de baisser votre valeur sur le marché de la nique. Bref, vous êtes tous en train de devenir des putes en fin de carrière. Et quand Macron nous refile des IST en masse, il vient juste derrière nous offrir des capotes gratuites pour qu'on lui dise « Ah, merci patron, un Mac comme toi, sinon rien ». Bon bah voilà, j'ai pu parler de compétitivité entre femmes et de la compétitivité industrielle, donc je suis pas peu fière de moi. Alors si vous êtes jaloux de mon texte, je vous invite à réécouter ma chronique sur la jalousie. Et puis je vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin de la valeur de votre travail sur le marché de la nique.
Alors on remercie Mulov qui n'est pas présente ce soir pour cette chronique qu'elle nous a produite. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette troisième session et merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur celle d'avant. On est toujours à GB Agency dans l'exposition personnelle de Marc Geffrio et je laisse Carla introduire nos invités.
Alors là, pour la première fois de la soirée, nous avons nos invités qui sont là avec nous en live, enfin directement devant nous. Et donc Jules Lagrange qui est artiste et Aaron Barbier qui est artiste aussi. Donc, ils ne se connaissent pas, mais ils ont accepté de se joindre à nous là pour discuter. Et bon, depuis le début, en soi, on passe la parole à tout le monde. Donc, c'est vrai que le but va être aussi d'ouvrir ensuite la parole. Mais l'idée, c'est de faire d'ouvrir en tout cas cette conversation avec vous deux. Et voilà. Peut-être que vous pouvez, rebondir par rapport à ce qui s'est passé ou ce que vous venez d'entendre. Aaron, toi, tu es arrivé là il n'y a pas si longtemps, mais tu as entendu cette chronique qui peut-être t'a inspiré. Et Jules, on a hâte de t'entendre sur ton émotion. L'idée, c'est d'être dans une parole libre, que vous pouviez parler de vous et ensuite on sera là pour rebondir de manière plus personnelle aussi par rapport à ce que vous direz. Voilà.
Ouais, donc c'est Aaron. Voilà. Je sais pas moi ce que je me disais là avec la chronique de Mulov, c'est que je me disais quand même, bon, c'est peut-être un peu utopiste, que le but du monde de l'art, c'est bon, clairement le monde de l'art donc, fait partie du marché de la nique, mais aussi en tant qu'artiste, on essaie au maximum de préserver quand même des sortes, enfin, on fait aussi de l'art pour pas être dans le marché de la nique, quoi. Donc il y a vraiment ce truc qu'on porte quand même. À vraiment faire une sorte de guerre des territoires, quoi, et essayer de garder, gagner 10 centimètres sur le marché de la nique ou échapper. Enfin voilà, il y a un peu aussi ce. Et du coup, je me disais que le truc avec la compétition et la jalousie, enfin, je sais pas, je pensais à ce qui s'est dit un peu en fin de conversation précédente sur la jalousie par rapport à l'envie. Et je me disais, mais pour moi, la jalousie, en fait, c'est lié vraiment à l'impuissance. C'est-à-dire que du moment où on est jaloux, on est en état d'impuissance. Et donc, souvent, on se sent jaloux quand, en fait, on était déjà au bord de l'impuissance, quoi. Enfin, ça, en fait, c'est ça, d'ailleurs, qui est terrible. C'est que, en fait, quelqu'un d'autre va vivre quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Mais dans notre impuissance latente, on va y voir le signe de l'effondrement de nos possibilités, quoi. Et du coup, pour moi, la jalousie, c'est vraiment un sentiment que, enfin, dès que je commence à la voir, juste je lui barre la route, et, mais avec un peu quelque chose de très artificiel aussi, c'est-à-dire que je suis dans le déni que même ça existe, j'ai décidé que ça n'existait pas, enfin, c'est, donc c'est pas toujours très fonctionnel. Des fois, je sais pas ce que je ressens parce que je veux pas dire que c'est ça, donc voilà, c'est pas toujours génial, mais du coup, il y a en tout cas cette idée que bah, j'essaie de me reconcentrer tout de suite sur ma puissance, en fait. Dès que je sens ça, je me dis ok, ça veut dire qu'il faut que j'oublie que les autres sont là. Ils vivent leur vie, je me reconcentre sur moi-même et je repars vraiment de zéro. C'est-à-dire, ça veut dire que j'ai vécu presque un état de destruction. Enfin, et que du coup, il faut que je me reconstruise, mais vite, quoi. Enfin, vite au sens, ça va vite, quoi. C'est pas. Mais il y a un truc comme ça où on est déraillé et faut retrouver de la puissance pour retrouver aussi de la générosité, enfin, envers ce que vivent les autres, etc.
Et ouais, c'est vrai qu'à l'inverse, je repense quand on en parlait avec Carla, ça t'a fait rire en fait que je dise que, bah oui, la compétition en fait et la jalousie. Moi, je suis super jaloux, je suis tout le temps en compétition, mais enfin, moi j'aime bien me poser la question. Souvent, je reviens à ça en essayant de déconstruire. Je me dis, mais voilà, moi d'où je viens, en fait, je suis né là-dedans. Enfin, je suis né avec d'autres petits garçons dans le même village. On était, voilà, mes cousins et mes frères, on a plus ou moins le même âge, on est une dizaine de garçons. Et en fait, on est construit là-dedans parce que on est des. Je pense que c'est vraiment lié au marché du travail, en fait, où on va être des forces physiques de production, que ce soit dans des fermes, que ce soit. Bon, moi maintenant, parce qu'il n'y en a quand même plus beaucoup, mais que ce soit dans l'artisanat, dans les chantiers. Enfin, donc ce truc, là, dès le début, on se compare tout le temps et ça se prolonge dans le sport. Et c'est vrai que j'étais vachement étonné en arrivant en Beaux-Arts que ça continue, en fait. Parce que je me dis, mais en fait, c'est le lieu où ça devrait se déconstruire, et puis c'est pas le même milieu. Enfin, et je me souviens très bien de la première année où t'as tes profs qui disent qu'ils sont artistes et qui devraient enfin, nous vendre un peu autre chose que vous pensez qu'il y aura combien d'artistes dans cette pièce. S'il y en a un, ce sera déjà pas mal. Et j'en passe, ça c'est les softs. Il y en avait des bien pires que ça. Alors qu'en fait, ils devraient nous expliquer que. Enfin, on sort jamais seul de l'école. Parce qu'après, il faut trouver des ateliers, il faut être plusieurs. Faut organiser des trucs et en fait bah, quand t'as été en compète permanente pendant 5 ans au Beaux-Arts et que tu sors bah, en fait bah, t'as pas de potes. Enfin moi franchement j'ai plein d'exemples assez dramatiques et moi je garde très peu de gens avec qui j'étais au Beaux-Arts et parce qu'il y en a qui ont fait autre chose aussi mais ouais je trouve que c'est vachement triste en fait que ce truc là soit pas déconstruit.
Ça me fait juste, je pensais à quelque chose qu'avait dit Mulov au tout début dans sa chronique où elle disait que la jalousie c'était plus pour les femmes et non, enfin c'est peut-être une bonne connerie mais que la jalousie c'était plus pour les femmes et la compétition c'était plus un truc d'homme et là ça me fait je rebondis ça parce que j'imagine 10 mecs voilà qui sont là à faire la compète et un truc et, en fait finalement bah, vous étiez bien jaloux quoi
la enfin. Jalousie est, enfin même entre les frères et sœurs, enfin moi j'ai des moments de Noël, tu vois, ou de trucs complètement dramatiques mais qui sont que des jalousies entre frères et sœurs, tu vois, enfin ou entre frères et frères les plus rapprochés qui se tapent dessus parce qu'ils ont, enfin c'est ultra présent. C'est juste que oui, on associe ça au féminin. Enfin, ce serait aussi à déconstruire, mais c'est clairement là. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Et pour rebondir, ça marche. Pour rebondir là-dessus, en fait, je trouve hyper intéressant ce que vous venez de dire. Je ne sais même plus qui l'a dit. La distinction entre pour les hommes, ce serait la compétition, et pour les femmes, la jalousie. J'ai l'impression que, du coup, pour les hommes, ce serait comme. En fait, chaque homme va courir pour soi. Chacun court pour soi, dans le but de dépasser. Et si on se dit que pour les femmes, ce serait la jalousie, ça voudrait dire prendre la place d'eux. En fait, c'est une histoire de place et de la ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment je veux prendre la place, je veux prendre ta place. Et de l'autre côté, on a le droit d'être plusieurs à courir. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Et moi, pour parler de moi et de mon parcours, du coup aussi en tant qu'artiste, je crois qu'en fait, c'est mon point de vue d'aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, mon expérience, ma première année aux Beaux-Arts, je me suis dit, c'est quoi, c'est une fabrique de la jalousie. Enfin, vraiment, j'ai été aux Beaux-Arts de Lyon. Une année, ça m'a suffi. Bon, après, les personnes qui sont restées, apparemment, c'était un peu mieux après. Mais en tout cas, j'étais hyper choquée de voir qu'on a eu droit à un discours en première année sur... Enfin, tellement compétitif et capitaliste. Enfin, ouais, on était 80 et il allait en rester pas beaucoup à la fin de l'année, enfin, moins de la moitié. Ça nous mettait les uns les unes contre les autres. Et en fait, c'est un truc que j'ai commencé à... Enfin, qui a été tellement violent en moi. Et du coup, j'ai voulu fuir ça, donc je suis pas restée. Et du coup, voilà, c'est toujours quelque chose que je fuis quand j'aperçois une sorte de d'once de jalousie. Bah c'est, enfin, du coup, je te rejoins un peu. Ça me rappelle à ça, et c'est anti-commun et collectif. Et du coup, je veux pas ça, en fait. Et du coup, j'ai changé de Beaux-Arts, j'ai recommencé une première année. Ça a été beaucoup mieux. Et puis, et à la fin, en fait, j'ai un peu tracé ma route. Et puis, il y avait des remarques d'enseignants, enseignantes qui me disaient pour ta vie d'après, il faut absolument aller à Paris, parce que c'est là que ça se fait. Et du coup, on m'a vraiment dit cette phrase, on m'avait dit, mais tu vas être personne si tu ne vas pas à Paris. Waouh. Et du coup, je suis pas allée à Paris. Et je vis pas à Paris. Et je crois que je le vis bien. Enfin, même si je viens souvent à Paris et ça me fait trop plaisir. Mais je suis super contente parce que je pense que ça m'arrive moins d'être jalouse, et quand ça m'arrive, en fait, en vrai, non, enfin, ça m'arrive pas trop. Je crois que du coup, j'essaie de le transformer et d'en faire une sorte de un truc moteur même pour moi, de me dire, alors les gens dont je suis pas proche, si jamais il y a une once de jalousie, ça va pas vraiment en être, ça va être, enfin, tant mieux, en fait, j'apprécie pas son travail, voilà, je m'en fiche. Et si c'est quelqu'un de mon entourage que je connais ou j'estime, ça devient du... pas de l'envie non plus, ça devient de l'admiration. Et du coup, je vais me dire, ah, cette place existe, mais je ne la veux pas. Je ne veux pas cette place-là, mais je sais qu'elle existe. Et ce que j'aime le mieux, d'ailleurs, c'est quand il y a des parcours d'artistes que j'admire qui sortent des sentiers battus, enfin, et encore, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, et du coup, qui me donnent l'envie... Enfin, qui montre qu'en fait il y a d'autres brèches et il y a d'autres endroits où on peut exister. Voilà.
Merci. Moi, je voulais juste rebondir parce que j'ai l'impression que, enfin, à l'instant de ce que tu viens de dire, tu parlais du fait de ne pas être à Paris, Jules, tu parlais d'avoir peut-être grandi aussi hors de la ville, dans la ruralité, comme on dit. Moi, j'ai un souvenir d'un enseignant aussi en école d'art qui nous avait pondu une liste des 100 meilleurs artistes à suivre, donc avec un ordre réel. Évidemment, il était dans la liste. Aujourd'hui, je ne sais plus trop où est-ce qu'il est. J'ai un peu l'impression de prendre une revanche aussi en parlant de lui, en ne sachant plus où il est maintenant. Et je me souviens qu'il avait surtout dit à des étudiants et étudiantes arrivant en première année... aux Beaux-Arts de Toulouse. Si vous n'êtes pas à Miami aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être ici. Et je trouvais ça assez incroyable, quoi, de dire ça à des tout jeunes sortis post-bac qui ne se sont pas construits, qui ne savent même pas qui elles sont, et de pouvoir balancer une chose aussi violente. Pour moi, c'était vraiment aussi un mépris de classe, quoi, de ne clairement pas pouvoir être... ailleurs que uniquement à Toulouse à ce moment-là. Je ne sais pas où je vais en venir sur ce rapport géographique, mais voilà, je pense que c'était important de le notifier aussi, parce que je pense que ça fait partie de ce genre de situations aussi qui peuvent créer une jalousie dans l'impossibilité d'être dans un contexte économique aussi. On a commencé à aborder un peu la question de l'économie aussi, on n'est pas trop retourné là-dessus, mais... j'ai l'impression que ça, c'est une réalité aussi qui génère de la jalousie.
Moi, je ne sais pas, ça me fait penser, en fait... je me rappelle du coup aussi mes toutes premières études, vraiment après le bac. Et en fait, j'étais en train de me dire qu'en fait, déjà, pour être jaloux, il faut avoir quelque chose à perdre. Il faut quand même être un peu là. Enfin, il faut être un peu dans le game, ou je ne sais pas comment dire. Mais... parce que c'est vrai que moi, mes tout premiers souvenirs, après le lycée... En gros, au lycée, j'étais en Seine-Saint-Denis, qui est le département où j'avais grandi. J'étais plutôt dans un... J'avais pris une option musique qui m'avait ramenée dans un lycée un peu hors de ma ville, dans un meilleur lycée. Mais ça restait, voilà, l'enseignement public et la Seine-Saint-Denis. Et qui est, en fait, moi, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais quand je suis allée dans une hippocagne à Paris. Donc, les hippocagnes, elles sont classées déjà. Enfin, moi, j'avais en fait pas les infos. Enfin, j'avais mal demandé. Je savais pas qui... j'étais pas préparée. Donc, j'avais eu... bizarrement, en fait, j'étais arrivée en ayant eu des bien meilleures notes au bac que tous les gens-là, parce qu'en fait, j'avais pas demandé les bonnes prépas. Enfin, donc, bref. Mais en fait, j'étais quand même mortifiée. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un truc où, en fait, d'être à Paris, d'avoir passé le périph', c'était juste vertigineux. Et du coup, je sais que j'étais... En fait, c'était vraiment le sentiment général. Et c'était un sentiment de terreur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jalousie, pour le coup. Alors que j'aurais pu vouloir ce que ces gens avaient, mais ça ne m'effleurait même pas, quoi. Et la jalousie, je trouve que c'est un truc que j'ai pu ressentir quand même un petit peu. Enfin, aussi pas beaucoup, mais quand même plus tard, quoi. Une fois qu'on commence à avoir eu certaines opportunités, à ressentir un certain confort, ou là, on commence éventuellement... peut-être être jaloux de ce que les autres... je sais pas.
Ouais, moi, je pensais à cette histoire économique. Pour moi, la jalousie, elle naît souvent de ce que je... Parce que je comprends ce truc d'admiration dont tu parlais. Mais il y a des moments où des fois, en fait, tu saisis des injustices qui sont peut-être vraiment personnelles. Tu te dis, en fait, cette personne, elle est là, mais en fait, elle a pas galéré. Tu vois, moi, très, très... De manière très pratique, on en parlait aussi. Ça m'est arrivé parce que je fais de la régie pour gagner ma vie. Et ça m'arrive régulièrement d'accrocher des œuvres de gens que je connais ou de gens qui sont au même niveau de carrière que moi, je dirais. Et ça, ça met un coup à l'ego, évidemment. Mais même si c'est cool, en général, ça se passe bien. Des fois, tu te fais maltraiter. C'est encore pire, tu vois. Et ça, chez moi, je sais pas si ça me fait naître de la jalousie, mais souvent, tu vois, quand t'es un peu, ça me dit, ouais, mais lui, en fait, ou elle, t'as l'impression qu'il mérite pas sa place et que toi, tu t'es battu. Enfin, c'est là où c'est quand tu te compares, évidemment, que ça naît. Mais je sais pas où je veux en venir. Mais ce truc d'économie, c'est un contexte général. De toute façon, la jalousie, elle n'est pas de rien. Et l'économie, pour moi, c'est important, mais. Tu peux rebondir là-dessus, je sais pas.
Non, je voulais juste prolonger en fait ce qui a déjà été abordé à maintes reprises, à savoir la compétition qui est instituée dans les écoles d'art, etc. Et en fait, il faut savoir que les enseignants aussi en fait sont mis en compétition. C'est-à-dire que la compétition se prolonge aussi en fait dans le fait d'enseigner, déjà d'avoir un poste. Enfin, on est mis en compétition pour avoir un poste qui sont de plus en plus difficiles à obtenir parce qu'il y a de moins en moins de places, parce que les conditions sont se dégradent et que finalement il y a aussi je crois une espèce de syndrome d'enfant battu quoi qui est dans l'idée de d'enseigner et peut-être c'est tous ces témoignages que vous avez partagés et qui sont très récurrents, en fait, viennent du fait que pour accepter sa propre maltraitance, en fait, on la reproduit. Et je crains malheureusement que ce soit le cas, en fait. C'est pour réussir à accepter, en fait, ce qu'on a subi et puis à essayer de valoriser, en fait, ce qu'on a réussi à obtenir ou à mettre en place. Et après, on le reproduit bêtement, quoi. Mais par contre, je te rejoins complètement que une école d'art devrait être un endroit où on devrait apprendre à déconstruire toutes ces choses-là.
Mais il y a une forme de vengeance aussi, peut-être. Ça dépend des personnes, mais ça peut être aussi de la vengeance de vouloir faire pareil.
Moi, il se trouve que j'étais enseignant dans une école de création, je ne vais pas vous dire laquelle, mais qui est un petit peu connue, et j'ai toujours essayé de mettre en place des projets collectifs, des dialogues entre les pratiques de création. Et justement, éviter la concurrence que vous soulignez. Et je me suis fait dégager. Je me suis fait dégager parce qu'on m'a dit, mais non, ça ne correspond pas à la réalité du marché. Et donc, il faut les entraîner, ces étudiants et ces étudiantes, au fait que demain, ils travailleront en leur nom. Ils ne travailleront pas collectivement. Alors, il m'arrive encore de voir des étudiants ou des étudiantes. Hein, et je leur ai dit, j'en ai encore vu l'autre jour, je leur ai dit, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous avez envie de signer un projet à plusieurs, vous avez le pouvoir. Plus c'est une école privée, vous avez le pouvoir. Prenez le pouvoir. Mais je sentais que là, leurs yeux se brouillaient et ça n'imprimait pas. Donc c'est vrai que cette histoire de signature, cette histoire de concurrence, elle m'a toujours été renvoyée au principe de réalité. Et puis quelqu'un m'a dit récemment, « Ah, tu sais, t'as été viré, t'étais trop à gauche. » Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Sur le « prenez le pouvoir », je sais que moi, ce genre de phrase venant de professeurs, j'ai toujours eu l'impression que c'était... Il y avait une telle perversion du système que ça devient presque une injonction contradictoire. Et du coup, c'est ça qui est... Parce que bien sûr, on veut... Mais en fait, la question, c'est comment faire que les étudiantes prennent le pouvoir. Et c'est... Je pense pas en leur disant « prenez le pouvoir ». Il y a un truc où c'est presque violent de s'entendre. C'est comme si on disait « bah t'as qu'à le faire ». Et en fait, on parle à des étudiants, étudiantes qui vraiment... Et moi, c'est un truc, parce que donc, je suis arrivée assez tard en école d'art, je suis arrivée en quatrième année, donc j'ai pas trop vu le... Enfin, tard au sens aussi, dans ma vie, j'avais bossé avant et tout, mais je voyais des gens donc, dans l'école beaucoup plus jeunes, et vraiment sortir tout frais de l'école, on va dire, le collège, le lycée, quoi. Et en fait, l'institution de l'école d'art, elle est tellement hantée par des ambitions aussi de déconstruction, etc. Mais en fait, on est face à des gens qui, depuis, je sais pas, l'âge de 5 ans jusqu'à 18... ont vraiment subi le système scolaire français, quoi, en fait. Et donc, il y a un niveau de méfiance et d'essayer de faire ce qu'on dit pour pas s'en prendre une, entre guillemets, une symbolique. Mais je veux dire, c'est vraiment... pour moi, c'est presque... Enfin, l'écart entre ce système-là et l'état de confort dans lequel... Enfin, confort au sens avec soi-même, dans lequel il faut être pour créer et faire quelque chose d'intéressant artistiquement, c'est tellement un pas de géant que j'ai l'impression qu'il faudra au contraire... Enfin, après, c'est peut-être utopique ou c'est... Voilà, je suis pas prof du tout, donc je sais pas les difficultés, mais j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment traiter les élèves avec une sorte de je sais pas, de délicatesse infinie, parce que c'est des gens qui ont été maltraités pendant... qui sortent de 10 ans de trucs absurdes, enfin... Donc voilà, je sais pas, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'était ça aussi la difficulté. Enfin voilà, j'ai vraiment traversé... juste passé 2 ans en école d'art, mais je me suis dit, oui, c'est vraiment compliqué parce qu'il faudrait en fait avoir un temps infini pour déconstruire certaines choses. Et...
Ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais le... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que derrière, il y a le marché, il y a l'employabilité. Et que cette notion d'employabilité, elle est... Dans l'école où je travaillais, elle était, mais vraiment, omniprésente. Et cette employabilité, quand on signe un contrat de travail, c'est en son nom. C'est jamais à 5. Et ça a fait vriller. Enfin, je trouvais d'emblée que ça faisait vriller, évidemment, ce que tu soulignes. Et même toute possibilité d'émergence, de faire émerger quelque chose d'autre, même la créativité, même des individualités. Enfin, des individualités collectives, j'ai envie de dire. C'était tué dans l'œuf, en réalité.
Bah, disons qu'en tout cas, il faut... Enfin, pour moi, vu que l'école jusqu'à l'école d'art... à préparer à la compétition et qu'en sortant de l'école d'art, effectivement, il y a le marché qui est aussi cette compétition. Enfin, la façon dont on déconstruit ça éventuellement dans le temps de l'école, je pense que voilà, c'est juste que ça peut être fait, mais de façon peut-être plus... Enfin, tout en maintenant aussi cette structure. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait presque... Ouais, aussi pour rassurer les étudiants sur leur capacité à survivre ensuite matériellement. Quoi. Enfin, il y a un peu un truc aussi où... Ou c'est un peu agréable aussi d'admettre qu'il va falloir trouver des façons de s'en sortir, je sais pas, de vivre en tant qu'artiste ensuite et d'ailleurs collectivement c'est possible. Il y a des collectifs qui, je sais pas, qui chopent des bourses, qui, je sais pas du tout.
Non, puis j'aurais dû dire quand même qu'il y a quand même, je pense à l'ERG parce que j'ai travaillé à un livre avec Laurence Rassel qui est directrice à l'ERG à Bruxelles. Et là, pour le coup, ils font l'effort de changer l'institution ensemble avec la direction, avec les profs. Et tous ces, et parce que je pense pas que ce soit aux étudiants d'arriver avec ces, ces questions. Enfin, moi, je me revois étudiant, honnêtement, j'avais tellement d'autres trucs à dealer avant, avant de me poser ces questions-là. Moi, je suis vraiment traversé sans me poser ces questions-là. Donc, je pense que c'est vraiment aux structures et aux institutions de changer, en fait, et de permettre déjà ça, aux étudiants de se poser la question de comment on va survivre après, parce que ça, moi, personnellement, on ne l'a pas abordé. C'est quand même assez dingue, en fait, parce que ça pourrait quand même, ne serait-ce que savoir, en fait, mais c'est ce que dit Laurence Rassel, de savoir comment ça fonctionne, on ne l'accepte pas, ça, c'est son choix, mais ne serait-ce que savoir, ça permet déjà au moins de s'orienter et de ne pas perdre du temps en sortant, quoi. Et ça, c'est qu'une chose de ce qu'ils sont en train de mettre en place à l'ERGUE. Et je vous invite à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est quand même assez, assez exceptionnel. Et je pense que ça... J'espère que ça va infuser un peu plus dans les écoles d'art, quoi.
Mais l'ERGUE, c'est super, en effet. Mais à l'inverse, les étudiants et les étudiantes que j'avais ou que nous avions, on ne cessait de leur dire... Ce qui allait se passer après. Et ce qui allait se passer après, c'est Coco, la concurrence. Donc on va t'y entraîner maintenant. C'était ça la perversité du truc. Et comme tu sais, ou comme vous savez, comme nous savons même, l'État et les collectivités en France se désengagent totalement. Et les entreprises rentrent maintenant, notamment les entreprises de luxe, rentrent dans les écoles et déploient leurs principes, évidemment.
Moi, je me permets de rebondir sur l'idée du collectif, parce que ça voudrait dire que si on est en collectif, du coup, il y aurait moins de jaloux ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, je connais des collectifs qui, voilà, ils sont dans la compète, pareil, seulement ils sont en groupe. Et donc, du coup, ils se disent, bon, peut-être que du coup, si on est plus, et ça va peut-être encore mieux marcher, parce que du coup, on est un groupe. Donc, en fait, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est ensemble, parce qu'on fait un collectif, que du coup, on met à l'écart toutes ces idées de concurrence, d'ambition. Au contraire, ça peut aussi devenir une stratégie, en fait. Rester tout seul pour être tout seul dans sa pratique et tout, c'est aussi très dur aussi. Donc c'est voilà.
Oui, parce qu'à l'inverse, pas du tout à l'inverse, mais j'ai l'impression que malheureusement, tous ces systèmes dont on parle, qui proviennent des écoles, de quelque chose de plus structurel globalement, malgré cette velléité à vouloir être en collectif, etc., qu'il arrive aussi... que ces systèmes se reproduisent finalement, que ce soit genre dans des rapports de domination ou des rapports de prise de pouvoir au sein même du collectif, et que finalement, la structure qu'on connaît et qu'on essaie de déconstruire, même à des endroits qu'on idéalise un petit peu, ils se reproduisent finalement. Et j'ai pas de solution pour ce problème, mais...
Moi, j'ai une question, donc un rebond à, 10 minutes d'écart, mais en fait, quand tu as pris l'exemple... Du coup, je me tourne vers Jules, pour les gens à la radio. Quand tu disais que tu accrochais des tableaux de gens qui sont, on va dire, avancés au même niveau dans leur carrière que toi, c'est quoi que tu ressentais exactement ?
Je sais pas ce que ça arrive, mais c'est pas forcément des tableaux d'ailleurs, mais...
Oui, je me suis dit en disant que c'était pas le mot que tu avais employé.
En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand ça se passe bien, en fait, en même temps, c'est marrant parce que c'est des gens que je vais rencontrer. Tu vois, si ça se passe bien, j'ai pas spécialement ressenti quelque chose de... Pas vraiment de jalousie, je pense, parce que je me sens au même endroit d'un côté, et en même temps, je suis là, je fais mon job, tu vois. C'est plutôt si ça se passe mal, tu vois. Si t'as quelqu'un qui a le même âge en face de toi, ou t'estimes que tu devrais avoir un truc de respect... Parce que voilà, tu te dis, c'est pas. Il n'y a pas de raison. Et là, ça se passe moins bien, ou tu vois, tu sens qu'il y a un espèce de truc de domination ou de puissance sur toi. Et là, forcément, tu le vis mal.
Donc, et tu réagis comment ? Ça m'intéresse. Je veux dire, tu t'énerves ou... Parce que moi, je sais que quand je me sens pas respectée, des fois, j'ai un mal fou à pas péter un câble sur la personne, quoi. C'est...
Bah là, c'est dans un contexte professionnel, donc c'est un peu difficile.
Oui, oui,
tu
justement.
Vois,
ouais. Ou alors je tais tout, mais c'est dur, je trouve, de trouver la juste mesure entre.
Je pense coup, que je me ferme et je pars, tu vois. Si quelqu'un peut prendre le truc en main, c'est très bien. Et si je suis seul, bah, je vais juste me taire, tu vois. Et c'est tout. Et après, la personne, tu la recroises, et c'est là où tu peux te venger. Non, je plaisante, mais c'est un truc que tu subis plus qu'autre chose, je pense.
Mais par rapport à ça, je trouve ça intéressant aussi cette... comment dire ? Je ne sais plus comment je vais tourner ça, mais cette distinction entre des personnes dans ce milieu qui n'ont pas forcément la nécessité d'avoir un job alimentaire, entre gros guillemets alimentaire, dans le sens où on a tous des jobs qui sont quand même liés à l'art et qui du coup nous apportent des choses d'une autre manière, enfin sous un autre prisme qui n'est pas la création directe, mais... J'ai l'impression que moi, des fois, je suis jalouse du temps des autres parce que j'ai une nécessité d'avoir une économie et j'ai la chance d'être dans un job qui me plaît énormément et qui m'apporte et qui me fait, enfin, qui me donne aussi une sorte de visibilité à d'autres égards, quoi. Néanmoins, bah voilà, c'est quand même des heures que je suis obligée de faire, que où je dois être présente et où je dois, enfin voilà, faire ce qu'on attend de moi, quoi. Et du coup, ce temps-là, je l'ai pas pour faire autre chose et. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est de la jalousie que je ressens, mais quand je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre tout ce temps-là, que moi je dédie aussi à d'autres gens, et c'est génial parce que bah, toutes ces personnes-là, je les rencontre. Et donc voilà, enfin, c'est une espèce de boucle un peu infinie où je m'y retrouve et je ne m'y retrouve pas, et je m'y retrouve et je ne m'y retrouve pas. Donc c'est un peu particulier, mais du coup, c'était plus pour ouais, rebondir sur ce rapport aussi un peu à l'économie du temps.
À l'économie tout court même. Parce que c'est le temps, si t'as pas de, si t'es jalouse du temps des autres, c'est parce qu'ils ont du temps pour eux et pas pour travailler. Enfin, c'est pour travailler, pour gagner de l'argent aussi. Enfin, ce sera pour l'argent d'économie.
Oui.
Moi, je me retrouve vachement dans ce que t'as dit à un moment où je suis dans la musique et il y a un moment où vraiment j'avais besoin de sous. Et donc, du coup, j'ai fait ouvreur aux têtes des Champs-Élysées, tu vois. Et il y a un moment où il y a eu une prod qui est arrivée avec des potes à moi qui chantaient pour le concert spirituel. Enfin, avec... ils sont arrivés, je les ai vus arriver. Et moi, j'étais ouvreur. Et là, je me suis dit genre, waouh. Là, c'est... Il y a eu un truc un peu compliqué où je pense que j'ai ressenti un peu de... Même de la jalousie, tu vois, pour le coup. Enfin, un peu, je pense... Enfin, je sais pas si c'est de la jalousie vraiment, mais il y a eu un truc, une sorte de remise en question. Puis après, je me suis dit, bah ouais, mais... De toute façon, j'ai pas forcément le choix. Donc il y avait quelque chose où ils étaient. Voilà, j'ai pas. Mais en tout cas, je me suis retrouvé là-dedans, vraiment. Enfin, j'ai pas. C'était. Mais il y a eu vraiment une sorte de. Ça, moi, ça m'a fait un peu remettre en question un peu sur le fait que. Bah, enfin, je sais pas. Enfin, mais ça m'a. Je me suis retrouvé. Non.
Oui, peut-être que vous aviez juste pas la même place dans ce moment T.
Oui, c'est une question de place et de rôle à ce moment-là. Et malheureusement, il y a quand même, il y a une hiérarchie là-dedans. C'est que t'es au service de. Enfin, c'est, ouais, c'est bizarre. C'est une situation, mais qui est plus d'un ordre social. Enfin.
Tu vois, le self-control que ça nécessite là-dedans, c'est pour ça quand tu dis on subit ou on fait des choses, etc. J'avais juste une chose. Moi, j'avais juste une envie. C'était juste. D'aller dans le vestiaire, de me changer, puis de me barrer, quoi. Et de dire que j'étais. Mais il y a un truc de self-control où je me suis dit, genre, ok, c'est comme ça, et puis, on y va, tu vois. Puis il y a un truc un peu.
Après, là, je me pose la question de pourquoi ça devrait être plus humiliant tu vois, d'être un technicien qui fabrique ou qui accroche des œuvres pour les autres plutôt que d'être artiste, en fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas spécialement plus de valeur à faire l'un ou l'autre. Enfin, ça, c'est dans ma tête, mais dans le monde dans lequel on vit, évidemment que c'est plus noble d'être l'artiste, tu vois. Et ça, c'est une vraie question qui se pose aussi de plus en plus, notamment sur les productions. Tu vois, qui fait quoi? Je sais pas, c'est parce que ça m'arrive aussi de faire des pièces pour d'autres. Enfin, t'es nommé, t'es pas nommé. Ça peut faire naître de la jalousie aussi, par exemple. Mais...
Moi, je reviens sur ce quelque chose qui s'est dit à, je sais pas, environ 10-15 minutes, mais sur cette question du faire en collectif, et où arrive du coup cette question de l'auctorialité, enfin, le fait d'être auteur, enfin, de signer, quoi. Et j'ai l'impression que c'est toujours aussi des endroits, malgré une envie collective, à moins qu'il y ait vraiment un nom collectif et que ça soit vraiment signé collectivement à chaque fois, et que peu importe les personnes qui ont été investies ou non dans le projet, mais que dès lors que c'est des singularités et des individualités qui doivent produire quelque chose ensemble, j'ai l'impression que ça peut arriver qu'il y ait vraiment cette question du pourcentage de qui a fait quoi, qui a fait qui. Enfin, je sais que c'est quelque chose que moi, on m'avait déjà demandé une fois où, quand j'étais en études d'art, j'étais en graphisme et j'avais tout basé sur la question de la collaboration. Et du coup, lors de mon diplôme, j'avais présenté que des choses que j'avais produites en collaboration avec différentes personnes. Et alors, c'est pas les membres du jury qui me l'ont demandé, il me semble, mais c'était un de mes enseignants qui m'a dit « Mais toi, c'est quoi le pourcentage que t'as fait là-dedans ?» Enfin, il y avait vraiment cette nécessité de savoir combien de temps de travail j'avais mis en place, moi, pour justifier que j'avais une légitimité à pouvoir m'approprier aussi cette chose-là. Et souvent, justement, sur la question de si c'était quelque chose qui avait été commandé et que du coup, j'étais pas à l'initiative d'eux. Mais pour autant, en fait, je pense que mon implication était aussi... aussi intense, mais voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais oui, le fait d'être auteur, enfin oui, d'être auteur. Et mais c'est vrai que là, il y a deux soirs, quoi, je parlais avec une personne qui justement travaille dans une grande institution, et il y avait vraiment cette question de là, tel soir, il va y avoir tout un tas de personnes très importantes du milieu de l'art qui vont venir et qui savent que je suis artiste et qui vont me voir là dans mon job. Et justement, je lui disais, mais je crois que c'est en fait un espace qu'il faut vraiment... Alors, je pense que quand on est sur le moment, c'est hyper dur de le valoriser et de l'assumer, mais enfin, que tout le monde prenne quand même bien conscience qu'on a tous des jobs alimentaires dans l'art, liés à l'art, et que ça sert à rien de le cacher, ou en tout cas qu'il ne faut pas en faire des hontes. Enfin, je ne sais pas.
Ben moi, je te rejoins complètement. Puis en plus, c'est pas seulement des jobs alimentaires. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de montage aussi. J'ai été monteur longtemps. C'était comme ça que je gagnais ma vie au début. Et c'était aussi quelque chose qui m'a énormément appris, en fait. Déjà, j'ai rencontré plein d'artistes. J'ai vu leur manière de travailler. Mais par contre, ce qui s'est passé, bon, je nommerai pas le lieu, mais... c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à montrer davantage mon propre travail, ils m'ont signifié que je ne pouvais plus travailler comme monteur. Voilà. Donc ça a mis un coup d'arrêt, en tout cas avec cette structure qui était mon principal employeur. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais plus travailler puisque je présentais mon travail ailleurs et que je ne pouvais pas avoir ce double statut. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, eux, ça les gênait. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils me l'ont présenté presque comme une faveur qu'ils me faisaient comme si ils reconnaissaient par là le fait que j'étais devenu artiste et que du coup j'avais plus à être monteur. Voilà. Mais moi, ça m'a bien fait chier parce que j'avais plus de thunes.
Nous allons bientôt passer à la quatrième séance de discussion. Est-ce que quelqu'un veut clôturer celle-ci ? Ok, donc on va passer à une petite entracte de 15 minutes. Et nous allons vous retrouver encore une fois pour la dernière chronique de Mulov, suivie d'une discussion avec Lou Ferrand et Romain Noël. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation. On vous retrouve dans 15 minutes.
Side is your best side. I'm high. It's okay to cry. 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 It's mur de béton. Paix au courroux de l'homme qui a faim. Qui nous a toujours donné le meilleur d'elle-même et dont chaque homme, quel qu'il soit, a besoin. Paix à nos ventres, grands réservoirs de poubelles académiques. Paix à vous, mes amis, dont la tendresse m'est une nécessité. Du feu, paix au lever du jour, à la tombée de la nuit, paix à celui qui marche sur les routes jusqu'aux horizons sans fin, paix au cheval de la bourre, paix aux âmes mal nées qui enfantent des cauchemars. Auprès de tes enfants. Paix enfin à celui qui n'est plus et qui toute sa vie a trimé attendant des jours meilleurs.